Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec des cadres, le dame Edgar Grelot, Julien Laurence, Paulo Breitner et Daniele Manoucia, ensemble jusqu'à 22h. Bien sûr, n'hésitez pas à envoyer vos messages également sur le numéro WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Hein, vos questions, vos remarques aux quatre drôles de dames. Alors, Daniele, on a parlé la semaine dernière de l'effondrement du Milan, qui a peut-être sécurisé, je dis peut-être, restons prudents, son ticket pour la prochaine Ligue des Champions ce week-end en gagnant à Gênes. Naples aussi, c'est fait, sera en C1. Mais la Juve, elle, est en train de se saborder violemment. Défaite contre la Fiorentina à domicile, qui relègue la vieille dame à la 6e place à une journée de la fin. Effondrement total.
Oui, oui, c'est incroyable. Ils sont glissés de la 3e place à la 6e. Il y a 3 journées, ils étaient à plus 5 sur la Roma. Ils ont fait match nul contre Verona il y a une semaine et ils ont perdu contre la Fiorentina qui n'avait aucune motivation à part la rivalité qu'il y a entre la Fiorentina et la Juventus. Là, Spalletti était très dur avec les journalistes à la fin du match. Il a dit que, en gros, c'était la faute de la pression qu'il met les journaux, qu'ils font de tous les matchs un match de vie ou de mort, qu'il simplifie des saisons entières sur des détails, sur des épisodes. Il a même dit, vous aimez construire des ratés, faire des gens des ratés. Et là, ils lui ont dit, mais non, ici, personne n'a parlé de ça, ils n'ont pas parlé des faillites et tout. Mais il était vraiment très, très dur. En gros, il a dit, il y a des choses pires que perdre contre la Fiorentina. Il a dit, au moins, on est en Europa League, on aurait pu aussi ne pas se qualifier pour l'Europa League. Il a fait un discours un peu, on l'a vu déjà nerveux, et aussi, il n'avait pas vraiment le contrôle. Et juste après Spalletti, il est passé Locatelli au microphone, et en fait, il s'est laissé pas. Comment dire, il a fait passer un truc dans son discours que je pense il n'avait pas maîtrisé avant, il n'avait pas pensé à ce qu'il disait, parce qu'il a dit avec Spalletti on s'est amélioré techniquement, tactiquement, mais si cela ne mène pas à l'objectif, il faudra tirer certaines conclusions. Donc on aurait dit qu'il était en train de réfléchir à voix haute sur le fait que s'ils n'arrivent pas en quatrième place, s'ils n'arrivent pas en Champions League, chose que maintenant c'est pas ça dépend pas de eux, ça dépend de la Roma.
Ils sont à 2 points de la Roma, là, justement, qui est cinquième de Serie A.
Oui, après, la Roma aussi, elle a une histoire de auto-sabotage éternel. Il y a plusieurs championnats que la Roma, elle a gâché au dernier match. Mais là, les derniers matchs, c'est contre Verona, qui, oui, ils font le mieux qu'ils peuvent, mais bon, ils ont beaucoup moins de motivation. Et a priori, la Roma, elle devrait gagner et aller en Champions League. Et la Juventus allait faire l'Europa League, chose qui est catastrophique. Même si la saison a été mal commencée, avec Tudor, qu'il a fallu changer, mais Comolli, il était attendu à cette saison-là, parce qu'il a été choisi par
Damien Cannes. Comolli, bien sûr. Oui,
ouais, voilà. Il a fait. Ben, c'est lui, maintenant, qu'il est sur la chaise chaude.
Pas encore la chaise électrique. En tout cas, il est ciblé par les tifosi, Comolli, comme principal responsable.
Oui, parce que s'il y a quelqu'un qui doit payer, est-ce que c'est Spalletti qui doit payer, donc on recommence du début le projet technique et tactique? Est-ce que c'est Comolli qui a fait le marché ou le mercato, il a pris Openda, Zegrova, il a fait l'échange avec João Mario, qu'après il est parti à Bologne. Il a pas vraiment amélioré l'équipe. Et l'équipe, on l'a vu contre la Fiorentina, elle manque de charisme. Il n'y a pas des joueurs avec un gros caractère. On en parle souvent de cette question-là. Les joueurs avec gros caractère, ils coûtent cher parce qu'ils montrent leur valeur dans tous les matchs, même dans les matchs difficiles. La Fiorentina, elle a bien joué. C'était le pire match que la Juventus a joué dans les dernières semaines. Mais ce n'est pas excusable. Tu ne peux pas perdre 2-0 à domicile contre une équipe qu'elle a joué jusqu'il y a quelques semaines la descente en Serie B et qu'ils n'ont aucune motivation, qu'ils sont tranquilles et qu'elle a seule chose qu'ils veulent, c'est de gâcher la saison. Et tous les a laissé faire ça. Donc, c'est franchement pas excusable. Spalletti les a pas excusés, d'ailleurs. Mais en même temps, il y a toujours cette question-là. Est-ce qu'il faut forcément que quelqu'un paye cette déception? Ou est-ce qu'on peut se dire, bon, c'est des choses qui arrivent, on va pas tout gâcher, on va essayer de relancer sur l'année prochaine, on va améliorer l'équipe? Moi, je pense qu'il y a du bon dans cette Juventus. Moi, je venais parler bien.
Mais comment améliorer pour la saison prochaine, sachant que si tu fais pas Ligue des Champions, ça manque à gagner autour de 70 millions d'euros environ, voire 80, avec des joueurs qui vont vouloir partir. J'imagine qu'un Yildiz ne voudra pas rester dans une équipe qui joue simplement l'Europa League, sachant qu'il a beaucoup de courtisans. Pareil pour Kefren Thuram, possiblement, Daniele, Cambiasso, Contessao, Bremer également. Enfin, il y aura beaucoup de demandes de départ. Après, faudra les payer, ces joueurs. Mais...
Peut-être, peut-être pas. Ils disent, il vient de renouveler son contrat. Il gagne quand même 6 millions nets par an jusqu'à 2030. Il est assez jeune, il peut attendre encore. Je pense que si la Juventus reste l'équipe la plus riche d'Italie, de loin. Donc, je pense que s'ils veulent faire un mercato pour améliorer cette équipe, moi, je pense que c'est très facile. Il faut trois joueurs, pas plus. Il faut bien les choisir parce que oui, si on se loupe sur, ils ont pris deux attaquants, ils les ont loupés tous les deux, Jonathan David et Openda. Ils se sont loupés sur le latéral droit parce que Zegrova et Conceição aussi, ils sont pas convaincus. Ils se sont loupés sur Coupe Miners. À la défense, s'il y a pas Bremer, c'est pas la même chose. Mais et ils se sont surtout loupés sur les gardiens. Parce que Di Gregorio, c'est peut-être la plus grosse déception de cette saison. Là, ça va pas être facile, parce qu'il va falloir trouver un gardien au niveau Juventus, donc au niveau Buffon, niveau Chesney, et c'est pas facile. Mais je pense qu'avec trois joueurs, un gardien, un milieu et un numéro 10, et là, il va falloir dépenser, c'est une bonne équipe. Je pense qu'il y a du bon. Je suis pas sûr que Spalletti... Il a encore les morales pour essayer parce que c'est quelqu'un que il fait chauffer tellement l'ambiance. Je sais pas si de l'extérieur de l'Italie ça se voit tellement que c'est un personnage excentrique, particulier. Moi, je raconte toujours l'anecdote que quand à Rome, il y a un arbre qui est tombé devant le centre d'entraînement. Il y avait les jardiniers qui arrivaient avec la ciseau électrique, la scie électrique. Et Spalletti s'est chargé de couper l'arbre parce qu'il voulait montrer que c'était lui l'enfant à couper l'arbre. À la fin du match avec la Fiorentina, Gudmundsson, il allait le saluer et lui, en gros, il lui a mal parlé. Gudmundsson, il a posé la main sur son épaule et il a enlevé la main et il lui a dit, mais touche pas à un garçon de 25 ans. En gros, il a laissé bagarrer avec lui. C'est quelqu'un avec un grand caractère. Dans un sens positif, dans un sens négatif aussi. La Juventus, c'est une équipe élégante, c'est une équipe qui très formelle et qui surtout programme les choses sur plusieurs saisons. Mais il faut rester calme. Si on perd la calme, je pense qu'on perd aussi sa place à la Juventus. Donc c'est plutôt là que je pense il y a le problème.
En tout cas, tout va se jouer, même si la Juve n'a pas son destin entre ses pieds. Sur 90 minutes contre le Torino, en plus un derby, hein, dimanche à 15h dans un multiplex de Serie A qu'il faudrait absolument regarder.
Et le Torino, il est en forme. C'est en dans plus. Un bon moment.
Polo, c'est fou comme parfois les choses se passent presque comme prévu. Albert Riera a échoué, donc, a qualifié l'Eintracht Francfort en Coupe d'Europe. Bilan en 14 matchs, 4 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Et surtout, tu l'as souvent raconté depuis 3 mois, des semaines et des semaines de tensions avec l'environnement local, la presse également. C'est terminé pour lui et c'est un gros coup dur pour l'Eintracht hein, qui ne verra pas le continent la saison prochaine.
Oui, pourtant sa mission entre guillemets, elle était faisable. Hein. C'était pas quelque chose non plus d'extraordinaire de passer devant Fribourg. D'ailleurs, lorsqu'il récupère l'équipe, il est septième au classement, donc il était en Europa Conference League. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, ce qui a mis un peu le feu aux poudres. Alors évidemment, au début, on regardait les compositions d'équipe qu'il faisait, qu'est-ce qu'il changeait. Donc il est OK, c'est pas c'est pas le coach le plus offensif d'Europe, mais au moins il y avait une structure dans l'équipe, etc. Rappelons que le Topmöller avait laissé une équipe qui encaissait 3 buts par match en moyenne, hein, donc c'était le travail d'Albert Riera était intéressant à ce niveau-là. Mais en fait, et plus les matchs avançaient, plus tu te rendais compte que s'il avait son schéma de jeu, il avait pas forcément, il ne mettait jamais les mêmes joueurs. Et tu comprenais pas, il pouvait faire en conférence de presse l'éloge de Mario Götze. Et Mario Götze, ben il rentrait à chaque fois dans les 10 dernières minutes, tu vois. Donc tu comprends pas pourquoi Burkhardt, qui est le meilleur attaquant de Francfort, ben tu le retrouves sur le banc. Et puis le c'est la presse allemande qui a mis un peu le feu aux poudres en faisant comprendre qu'il y avait beaucoup de soucis, un peu ce que tu m'avais raconté sur ce qui se passait lors de son passage en France, et avec certains joueurs, par exemple, qu'il ne parlait pas avec certains joueurs, il envoyait son assistant discuter avec, par exemple, que le japonais Ritsudoan, eh ben il ne le nommait pas par son prénom mais par son nom, par exemple, que ça ne se passait, qu'il trouvait que Burkhardt notamment était trop gras et tout ça. Et donc quand c'est sorti dans la presse, eh ben il a commencé à faire un show extraordinaire, oui. C'est-à-dire qu'il était le cas, ce qui était déjà le cas avant et qui faisait rigoler un petit peu tout le monde, mais comme les objectifs pouvaient être atteints, bon, on laissait ça un petit peu on dit ouais c'est marrant parce que parfois je l'avais dit à l'antenne, parfois on se plaint trop que les coachs sont dans un discours, une communication et tout ça, donc lui c'était assez marrant, mais finalement on s'est rendu compte que c'était plus grave que ça et je n'arrive toujours pas à comprendre en fait le personnage, sauf à comprendre un article qui était assez beau de Kicker, je sais plus si c'est hier, aujourd'hui ou si c'était hier, qui a fait un peu le bilan des coachs cette année et qui s'est rendu compte que tous les coachs qui ont un porte-voix à la place de la bouche cette saison ont échoué, évidemment Sandro Wagner à Augsbourg, évidemment Albert Hiera du côté de Francfort, et tous ceux qui étaient un petit peu plus taiseux, je pense à Urs Fischer, Dieter Hecking, les vieux de la vieille, ben finalement Dieter Hecking il a amené Wolfsburg au barrage alors que c'était pas gagné, et Urs Fischer a fait une super campagne pour remonter le club qui était bon dernier de Bundesliga. Donc c'était assez intéressant, mais surtout le gars, je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé hier dans l'émission d'Apple Pass. On avait un journaliste qui était là. Il va dire oui, il va nous manquer quand même Albert Hiera parce que, à part dans ses conférences de presse, il est assez exceptionnel, presque au même niveau que Donald Trump. Et donc tu vois où on en est, parce que tout le monde a éclaté de rire, évidemment, parce que Donald Trump c'est ridicule ses conférences de presse. Et en fait Albert Hiera, il y a un côté messianique dans ce qu'il raconte. Exactement. C'est moi, c'est ceci.
Mais tu vois, c'est pas ça ce que disait notamment un de ses dirigeants à Ljubljana où il a entraîné, hein, en Slovénie. Il disait qu'il se prenait pour Dieu en fait. C'était une bombe à retardement qui allumait des feux tout le temps en conférences de presse qu'il a fait en Ligue 1 avec Bordeaux notamment. C'est beaucoup de mal à lire cet homme-là. Je crois qu'il est un peu taré, hein, tout simplement, avec un ego dingue.
Je crois qu'il a un ego de dingue.
Disproportionnel par rapport à ce qu'il est, quoi.
Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que psychologiquement, il a peut-être quelques problèmes aussi. Maintenant, ça peut être une méthode de management. Mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné à Francfort. 5 matchs sans victoire, pour finir. Évidemment, on peut supposer que les joueurs de Francfort sont un petit peu responsables de ça. Et puis, évidemment, Francfort ne sera pas en Europe, pour la première fois depuis 5 ans. Ça va être donc un sacré recul en arrière. Et on parle jusqu'à 30 transferts cet été, du côté de Francfort, donc il va se passer beaucoup de choses en départ arrivé.
Reconstruire pour aller, pourquoi pas, retrouver
un top 6. On parle d'Adi Hütter d'ailleurs.
Adi Hütter, oui, exact, t'as raison de le dire.
Adi Hütter, et qui pourrait revenir, lui, on rigole pas trop.
Pas la même personnalité quand même, hein, un peu plus sobre en conférence de presse, Adi Hütter.
Ouais.
Voilà pour Albert Hiera, bon vent à lui, on verra s'il retrouve un point de chute ailleurs. Dans un instant, on va revenir sur l'émotion de Celtic, mais surtout là. Désillusion pour Heart of Middlesbrough. J'ai bien dit, Julien, c'est ça? C'est comme ça?
Très bien, parfait.
Bon. Mais d'abord, la minute espagnole. On envoie la musique, Timothée, s'il te plaît. D'accord.
Je sais pas où t'allais avec.
Non, d'accord. C'est bien. J'aime, c'est assez audacieux et toujours mieux du reggaeton, ouais, mon cher Edgar.
Écoute, de toute façon, c'est dur à critiquer comme choix parce que je l'ai choisi dans la playlist de Robert Lewandowski. Parce qu'il a une playlist sur Spotify où il a mis les chansons en fait qu'il écoute pour se mettre dans l'ambiance avant les matchs. Bon, vous savez, hein, le FC Barcelone est sponsorisé en partenariat avec Spotify, donc ils ont fait ce genre de choses. Et ce qu'on écoute, c'est une session studio de Peso Pluma chez le producteur Bizarrap. Et je l'ai choisi parce que le chanteur parle d'une personne qui lui manque terriblement depuis qu'elle est partie, que tout a changé. Et je pense qu'il y a beaucoup de Catalans qui vont ressentir ça dans quelques mois parce qu'ils ont dit au revoir à Robert Lewandowski. On verra qui va le remplacer, mais ça va pas être un job facile en tout cas. Il a eu le droit à un bel hommage au Camp Nou. Il a joué son dernier match à domicile hier face au Betis. Il a porté le brassard du capitaine. Il a eu une standing ovation. Il a eu une aide d'honneur. Il a été célébré par tout le monde. Il a pleuré. Il a donné un discours au centre de la pelouse. On parlera évidemment de l'hommage à Griezmann tout à l'heure. Mais lui, comparé à Griezmann, il est resté que 4 ans entre guillemets, mais il va rester dans l'histoire du club d'une façon particulière parce qu'il est arrivé dans un moment bien particulier, parce que quand il signe en 2022, il sort d'une saison à 50 buts en 46 matchs avec le Bayern Munich, et là il signe dans un Barça qui va mal, un Barça en dette, un Barça qui gagne plus, qui avait terminé à 13 points du Real la saison d'avant, qui est éliminé en phase de poule de Ligue des Champions. Pour vous donner une idée, c'était le Barça ses meilleurs buteurs, c'était Aubameyang et Memphis Depay. Et puis Lewandowski à ce moment-là était un symbole d'espoir en fait pour tous les supporters du Barça, un joueur, une signature qui signifiait que le Barça pouvait encore attirer ce genre de joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Et finalement, il a fait 4 saisons, il a remporté 3 Ligas, 3 Supercoupes d'Espagne, une Coupe du Roi, 119 buts en 192 matchs, donc un ratio incroyable pour un joueur qui était là de ses 33 à 37 ans. Et comme il l'a dit lui-même dans son message d'adieu, le Barça est de retour à sa place. C'est-à-dire que le Barça est à nouveau un candidat à tous les titres. Et Lewandowski n'y est pas pour rien.
Trois fois champion en quatre saisons sous les couleurs du FC Barcelone. On sait ce qu'il va faire ou pas? Non? Où il va partir?
Pour l'instant, non.
Non, pour l'instant, non. Pourquoi pas la MLS? J'avais lu ça également. Il aura des offres aussi énormes en Arabie Saoudite pour le Polonais.
Il a encore un bon niveau.
37 ans, oui, bah, il peut rendre des services, hein, surtout en MLS, tu vois. Ou en Serie A. Excusez-moi pour la lourdeur de la blague chaque lundi, mais pourquoi pas.